Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit peu d'avance et on va aller déjà vers Noël, en tout cas vers l'avant, puisqu'on va parler de deux outils de documents qui sont publiés par Vivre Ensemble à l'occasion de cette campagne d'avant. Et pour m'épauler, j'ai avec moi Xavier Deutsch et Paul Rixen. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, Xavier, c'est la quatrième année consécutive que vous écrivez le conte de Noël pour Vivre Ensemble. Avec de plus en plus de succès. Et vous m'avez avoué cette fois-ci que vous aviez un petit faible pour cette dernière cuvée. Alors pourquoi ?
Oui, c'est difficile à dire pourquoi, mais c'est vrai que j'ai une tendresse pour ce conte-ci. Je serais un peu comme un potier qui aurait fait une belle poterie, mais qui a du mal à expliquer les raisons. Moi, je trouve ce conte réussi, je le trouve équilibré, serein, il y a un élan. Je pense que c'est le plus littéraire peut-être des quatre que j'ai écrit à l'occasion des fêtes de l'Avent. Mais j'ai un peu de mal à dire pourquoi, mais j'ai une vraie tendresse pour lui.
Alors, faute de dire pourquoi, vous allez peut-être en quelques mots nous expliquer un peu l'action, comment, où ça se situe, et, en quelques mots sans dévoiler évidemment tout.
Voilà, oui, en fait c'est l'histoire d'une bande d'enfants dans la campagne. On peut imaginer un petit village d'Ardennes par exemple, au milieu d'une forêt. Des gamins des bois, quoi. Enfin, ils savent ce que c'est que la campagne et la forêt. Et puis à un moment donné, en se baladant, il leur arrive une petite péripétie qui leur vaut le lendemain de recevoir une étrange invitation venue d'une vieille dame du fond de la forêt. Cette vieille dame les invite à passer un moment auprès d'elle. Et alors ils s'y rendent, voilà. Ils sont 7 ou 8, une petite poignée d'amis qui se décident à répondre à cette invitation. Ils se munissent de cadeaux, ils traversent la forêt au sein de laquelle ils vont rencontrer une série de personnages très particuliers. Ils traversent des péripéties, comme dans un conte. Enfin, il y a quelque chose du petit Poucet dans cette histoire. Pour finir par arriver au bout de la forêt, dans la maison de cette vieille dame. Voilà. Mmh. Grosso modo, voilà un petit peu le profil de l'histoire.
Oui, ce qui est chouette dans ce conte, qui, rappelons-le, donc, est destiné aux enfants de 8 à 12, 13 ans, c'est que c'est peut-être le plus conte des quatre. Il y a cet aspect un petit peu merveilleux, fantastique, qu'il n'y avait peut-être pas dans les autres, avec à la fois des enfants qui sont tout à fait dans la réalité d'aujourd'hui. Je veux dire, on n'est pas dans le petit Poucet, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'avais vraiment envie de faire en sorte que les enfants qui sont les protagonistes du conte puissent être des enfants que nous connaîtrions, que nous rencontrerions, que nous croiserions dans n'importe laquelle des écoles primaires ou secondaires de notre pays. Ils ressemblent à vos enfants, ils ressemblent aux nôtres, ils existent vraiment et ils sont tout à coup plongés dans des circonstances un peu particulières.
Mmh. Et pardon, le thème de cette année qu'on vous avait demandé de mettre en valeur dans ce conte, c'est la pauvreté vécue par les enfants. Donc c'est peut-être pas évident justement d'en parler aux enfants. Comment est-ce que vous avez choisi d'aborder ce sujet-là ?
Eh bien, j'ai abordé le sujet en y réfléchissant pas trop. Finalement, je trouve ça extrêmement compliqué de réfléchir à cette question parce que ça soulève tellement de motifs, tellement délicats sur... Les enfants démunis dans notre pays, ils n'ont peut-être pas très envie qu'on leur reparle de ce dans quoi ils se trouvent. Et les autres, parce qu'il y a quand même un très grand nombre d'enfants de la classe moyenne ou aisés ou de familles aisées, qui ignorent la réalité de la pauvreté. Comment leur en parler sans que ça soit culpabilisant pour eux, sans les alourdir de 36 questions avec lesquels finalement ils ne savent pas tellement se comporter. Enfin, c'est très très compliqué. Donc comment faire ? Donc moi j'ai pas tellement réfléchi, je me suis comporté avec intuition, j'ai raconté cette histoire et j'ai l'impression que souvent, il faut se faire confiance. Il faut se dire qu'on a de l'intuition et que quand on se comporte avec spontanéité, on a davantage de chances de toucher juste. Donc voilà, pas trop réfléchir, m'appuyer sur les émotions, les sentiments qui sont les miens. Et laisser faire le texte en voyant où il nous conduira, tout en sachant qu'il est évidemment soutenu, alimenté par les grandes questions de la fraternité qui se trouvent au sein de l'Évangile.
Mmh. Voilà, on va y revenir tout à l'heure, mais je me tourne à présent vers Paul, qui est animateur pour Vivre Ensemble à Liège, et qui, par ailleurs, est à l'initiative de cet outil qui s'appelle Cadeau. Comment on démarche cadeau, comment on peut appeler ça ?
Noël, c'est cadeau.
Noël, c'est cadeau, voilà. Et qui est un petit peu la suite d'une démarche qu'on avait lancée l'année dernière, Paul.
Oui, vous vous souvenez, l'année dernière, on avait essayé de revisiter un peu, de dépoussiérer un peu la crèche, en se disant que la crèche a sa place, bien sûr, à Noël. C'est une tradition, une belle tradition. Mais comment lui donner le sens, peut-être, plus de l'origine ? Comment lui donner un peu plus de souffle ? Et donc, on avait invité les paroisses, les groupes, les écoles, à réfléchir sur cette crèche et à se dire quels sont un peu les bergers d'aujourd'hui, quelles sont les personnes qui ne sont pas de bonne réputation, ne sont pas, sont un peu exclues du jeu, et auxquelles, mais qui étaient là à la crèche. Alors ça a donné des choses formidables. Hein. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui nous ont envoyé un petit mail et quelques photos, et je vois que dans des campagnes lointaines ou dans les villes, on a vraiment fait un effort de créativité, de réflexion sur la crèche d'aujourd'hui. Voilà, ça c'était un grand classique de Noël.
Alors cette année, on revisite un autre classique de Noël.
C'est les cadeaux,
c'est
Isabelle.
C'est les cadeaux.
Alors c'est les cadeaux. Alors est-ce qu'il faut renoncer aux cadeaux? Non, 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 surtout pas. On n'a besoin plus que jamais de recevoir et de donner des cadeaux. Mais c'est vrai que le cadeau à Noël, ben c'est un grand classique. Et là aussi, on voudrait cette année ici permettre aux gens un peu de réfléchir sur ce qu'il y a inévitablement à Noël, ce cadeau. Qu'est-ce que c'est finalement un cadeau à Noël? Et alors le faire aussi en lien justement avec ce thème des enfants et de la pauvreté, de l'inégalité des chances. Donc cette démarche, on la propose en trois points. Premier point, essayons de réfléchir un peu, que ce soit un petit groupe de la paroisse, un groupe de vie féminine, que ce soit des animateurs de mouvements de jeunesse, réfléchir un peu, mais c'est vrai, les enfants, tout le monde n'a pas la même chance de départ. Très vite, des enfants qui ont tous les mêmes rêves. Ça n'existe pas un enfant pauvre. Hein. Un enfant est toujours riche de plein de rêves, de désirs, etc. Mais très vite, dès les premiers mois de vie, certains enfants vont avoir des portes grandes, ouvertes, qui pourront réaliser ce qu'ils voudront, beaucoup de choses dans leur vie, et puis d'autres vont avoir des portes fermées. Ça commence à l'école, ça commence dans le milieu familial, ça commence dans le quartier. Alors, comment est-ce qu'on peut voir, regarder autour de nous pour voir quelles sont les portes ouvertes et les portes fermées que vivent ces enfants ou pas? Voilà. C'est une première chose, réfléchissons un peu sur ça. Et puis deuxièmement, posons la question, c'est la deuxième étape de la démarche, posons-nous la question, mais quel cadeau leur offrir? Si on veut offrir un cadeau à ces enfants, ça peut être quoi? Est-ce qu'on va leur offrir un vieux jouet usé? Est-ce qu'on va offrir un peu plus de temps? Est-ce qu'on va offrir de se battre simplement dans le club sportif, au scout ou au patro pour que ces enfants-là aient réellement leur place? Enfin voilà, vous trouvez dans la fiche d'animation Noël c'est cadeau toute une série de pistes qui vous permettent, un, de réfléchir un peu sur la situation des enfants qui vivent autour de nous, deux, de réfléchir un peu sur un cadeau symbolique, et puis de réaliser ce cadeau. Et alors ce cadeau, à la veille de Noël ou à la messe de Noël, on peut apporter ce cadeau ensemble sous la crèche ou sous le sapin de Noël.
Bien sûr, ce cadeau, on va revenir dans quelques instants après la première pause musicale. On va écouter Michel Fugain, Tout va changer ce soir.
RCF.
RCF.
Branchez-vous sur l'essentiel.
L'essentiel.
Tout va changer ce soir. Un nouveau départ. La neige a blanchi le monde. Les enfants sont pleins d'espoir. Tout va changer demain. Tu n'as qu'à ouvrir pour que de là-haut te tombe en rafale une pluie de cadeaux sous un torrent d'étoiles. Demain il fera beau. Tout va changer ce soir. Selon notre bon vouloir, les rues seront des théâtres. On jouera sur les trottoirs.
Voilà, Michel Fugain, Tout va changer ce soir. On est déjà bien dans l'ambiance de Noël. C'est une très belle chanson qu'on vous invite à écouter, à faire écouter. Alors donc, Paul, revenons à cette démarche cadeau. On avait réfléchi sur la pauvreté des enfants, on a réfléchi à quel cadeau on pourrait leur offrir, et puis on va offrir ces cadeaux?
On peut l'offrir, on peut fabriquer des petits cadeaux, on peut l'offrir de façon symbolique, mais pourquoi pas une idée de chèque cadeau, vous savez que c'est à la mode, mais voilà, un engagement, quelque chose qu'on pourrait faire pour améliorer concrètement, pour être un cadeau l'un envers l'autre dans la vie, pour que chacun ait des chances de vivre bien, tout simplement.
Donc des cadeaux pas comme les autres, peut-être des cadeaux plus abstraits, moins, plus en termes de temps, en termes d'engagement,
voilà.
C'est important.
Ben réfléchissons, je pense que ça fait partie de toute la réflexion qu'on peut avoir sur tous ces cadeaux qui nous encombrent peut-être beaucoup dans la société d'hyperconsommation, à Noël et tout ça et tout ça. Il y a quelque chose de créatif réellement à faire à ce niveau-là.
Très bien. Xavier, qu'est-ce que ça vous inspire, cette façon d'aborder les cadeaux?
Beaucoup de choses, c'est très difficile à dire.
Vous aimez acheter des cadeaux pour les fêtes?
Oui, j'aime acheter un cadeau ou en recevoir quand c'est quelque chose de pensé. Donc moi, j'aime pas le côté obligatoire, le rituel convenu auquel tout le monde se plie de manière un peu contrainte comme ça. Et donc, je trouve que quand un cadeau a été réfléchi, pensé, quand il est offert de manière vraiment habitée, je trouve que c'est véritablement précieux. Par exemple, dans ma famille d'origine, hein, mes parents, frères et sœurs, etc., il est arrivé un moment où on s'est rendu compte ensemble qu'il y avait une telle profusion, que ça n'avait plus de sens. Alors on a, comme pas mal de gens, j'entends dire autour de nous qu'il y a pas mal d'autres personnes qui le font, c'est qu'on a modifié le système, et plutôt que de donner un cadeau à tout le monde le jour de Noël, on le donne à une personne en particulier. Et ça permet de penser ce cadeau, de l'investir d'une manière différente, d'y consacrer peut-être plus de temps, d'entourer ce cadeau, de lui donner plus de valeur. Et je trouve que c'est un système parmi d'autres qui a permis de redonner du sens à tout ça. Alors au-delà de la famille, parce que curieusement c'est vrai que le cadeau, il semble être un privilège centré sur la famille le jour de Noël. Voilà. Noël est devenu une fête familiale. Et ce que vous venez de dire par rapport à ces sortes de portes et de cadeaux qui peuvent être faits, une question, c'est est-ce que la question du cadeau peut être élargie au-delà de l'enceinte familiale? Est-ce qu'elle peut être extrapolée? Alors elle s'adresse à qui? Elle s'adresse au type qu'on croise dans la rue, mais lequel? Est-ce que ce type a envie de recevoir un cadeau? Qu'est-ce que notre cadeau peut lui apporter? Est-ce que c'est pas stigmatisant pour lui? C'est extrêmement compliqué. Et en définitive, il n'y a pas de recette. Je pense que la vraie démarche, à mon avis, c'est de faire avec le cœur. C'est que ça puisse être vraiment quelque chose qui puisse être offert le jour de Noël ou les 364 autres jours de l'année, c'est de semer autour de soi ces petits ou ces gros cadeaux qui peuvent prendre un milliard de formes différentes, mais qui aient du sens et qui viennent du cœur.
Un cadeau tous les jours, ben voilà une bonne idée, Paul, on va reprendre ça dans nos animations. Alors ce cadeau, on vous a demandé aussi d'en parler dans le conte. Et dans le conte, vous l'avez dit au début, les enfants ont préparé des cadeaux pour la dame qui les invite, mais en fin de compte, ces cadeaux ne vont jamais arriver à leur destination. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces cadeaux?
Oui, non, c'est juste en fait. Voilà, donc les enfants quittent leur village pour se rendre à l'invitation de la vieille dame en emportant un cadeau, et ils emportent aussi des petits trucs pour la route, quoi, un bout de pain, un saucisson, des machins, voilà. Bon. Et ils ont un cadeau, c'est un vêtement qu'ils ont prévu d'offrir à la vieille dame. Et puis en cours de route, ils rencontrent trois vieux hommes qui semblent émerger d'un... C'est marrant parce que ce sont des vieux hommes qui semblent émerger d'un conte du Petit Poucet, de la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, de Flaubert ou de quoi que ce soit. Et en même temps, ce sont des hommes qu'on... Moi, pour vous rejoindre ici, auprès de la gare du Midi, j'ai croisé un gars avec une jambe en moins qui était immédiatement issu de mon conte. Donc ces types, ils existent, enfin, ils sont là. Et donc les enfants, au fur et à mesure de leur promenade, au fur et à mesure où ils rencontrent ces vieux hommes, l'un a faim, l'autre a froid, le troisième est malade, les enfants donnent à ces hommes ce dont ils se sont munis. Ils donnent d'abord le bout de pain et le saucisson, et puis ils donnent autre chose, et puis au troisième, ils finissent par donner le cadeau qu'ils avaient prévu d'offrir à la vieille dame. Il y a un débat entre eux. Il y en a un qui dit « Ouais, mais si on donne le cadeau, elle ne va plus nous inviter, etc. » Ils en discutent entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? On donne le truc, on ne donne pas le truc. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est... Et puis ça rejoint mon propre sentiment, c'est quand moi je reçois un cadeau, parce qu'il y a la question d'offrir un cadeau, il y a aussi la question de le recevoir, moi j'aime assez être étonné, j'aime qu'on m'étonne, et je trouve que dans la question du cadeau, il y a cette, dimension de l'étonnement, de la surprise, de ce à quoi on ne s'attend pas, de la destination déviée. On prévoit quelque chose et puis c'est autre chose qui se passe. La Bible est toute remplie hein, de ce genre de trucs. Il y a des plans, des préméditations. Vous avez des gens, des prophètes. Hein. Il y a un gars qui a prévu d'avoir sa vie comme ça. Tout à coup, il reçoit une invitation qui fait complètement dévier sa route. Voilà, j'aime bien ça dans la vie comme dans les histoires.
D'accord, on va revenir encore tout à l'heure sur ce conte, mais le cadeau est aussi présent dans un troisième outil de vivre ensemble qu'on va aborder rapidement avec Paul. Cette démarche cadeau, elle se trouve au centre d'un autre document qui s'appelle « Pistes pour un avant solidaire » et qui remplace un petit peu les anciennes pistes liturgiques, Paul.
Oui, parce que les pistes liturgiques, c'était plutôt prévu pour les curés. Alors ici, cette année, Vivre Ensemble met en place des pistes pour un avant solidaire. Ça s'adresse également à des enseignants, des animateurs de mouvements de jeunesse, des catéchistes. Et c'est bourré de semaine par semaine, hein. On a bien découpé les quatre semaines de l'Avent. C'est bourré de réflexions, mais aussi des intentions de prière, et à chaque fois une question qu'on peut se poser entre nous. C'est très lié aux évangiles, aux lectures bibliques du dimanche. Il y a aussi des faits chiffrés, un peu pour percevoir la réalité de ces familles qui vivent dans des situations de pauvreté. Et il y a un geste à poser en paroisse ou en mouvement de jeunesse, ou où on veut, qui est centré autour du cadeau. En fait, on décore les quatre faces du cadeau chaque fois avec le résultat un peu d'une réflexion qui est contenue dans tout ça. Voilà, je vous recommande vraiment vivement ces pistes pour un avant solidaire et vous trouverez à la fin toute une série de textes, des idées pour des films, des idées pour des chansons aussi. C'est vraiment un outil très riche à mettre dans les mains de tout bon animateur.
Et les enseignants également. On reviendra sur le concret de ces outils à la fin de l'émission. Donc dans ce conte, les enfants, on l'a dit, partent en expédition avec leur cadeau et ils rencontrent des situations qui les mettent devant des choix, notamment face à ces cadeaux. Est-ce qu'il faut garder notre saucisson et notre cadeau ou bien est-ce qu'on va le donner ? Il y a aussi un autre choix quand ils sont face à une épreuve. Est-ce qu'on passe chacun pour soi et ceux qui ne peuvent pas passer ne passent pas ? Ou est-ce qu'on passe tous ensemble ? Est-ce que finalement tout ça, c'est quand même un petit peu des métaphores, des choix auxquels les enfants, peut-être dans la vie quotidienne à l'école, mais aussi nous, adultes et a fortiori en tant que chrétiens, on est confrontés finalement, le choix entre solidarité et chacun pour soi.
Oui, c'est ça. Je me suis un peu amusé, encore une fois, vraiment, moi je suis un romancier, quoi. Je ne suis pas vraiment un gars qui commence à réfléchir, je ne suis pas sociologue par exemple, donc je n'élabore pas toute une réflexion sur la manière dont il faut qu'on se comporte, etc. Bon, en même temps, je suis un romancier, mais je suis un romancier chrétien, et dans ce cadre-ci, c'est clair qu'il y a une dimension qui doit aller du côté de la fraternité, de la solidarité, mais en n'étant pas lourdingue. Moi, je trouve qu'il y a tout un discours franchement agaçant, une espèce d'intimation, quoi. On nous dit, vous devez être gentil, vous devez être solidaire, vous devez être fraternel, indignez-vous. Attendez, ça ne se commente pas, quoi. C'est quoi cette histoire? Donc, il faut que ça soit ressenti, mais comment faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais bon. Et donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une situation, notamment, où les enfants doivent faire un choix. C'est qu'il y a un pont à traverser. Mais s'ils ne comptent que sur leurs propres ressources individuelles, il y en a peut-être deux qui passeront sur les sept. Et alors, il y en a une qui a un certain leadership dans ce groupe. Moi, je l'aime bien, cette petite bonne femme. C'est une gamine qui a 9 ans, elle est pâtre. Mais elle y va, quoi. Et elle dit, les gars, moi, je suis désolé, mais on est partis tous ensemble dans cette histoire. On arrive chez la vieille dame, tous ensemble ou aucun. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est dans l'évangile, sous une autre forme. Et pour moi, c'est absolument fondamental. Vous savez, c'est un peu par rapport à l'idée du paradis. Moi, j'ai envie de dire que si la porte du paradis est étroite et que les foules se pressent pour y rentrer, moi, je m'assieds sur une pierre, j'attends que tout le monde y soit. Le paradis n'a aucun sens pour moi si tous mes frères humains n'y sont pas accueillis. Ça n'a pas de sens. Et je ne crois pas un instant que la porte soit si étroite qu'on le dit. Je suis sûr qu'on est tous invités à y être accueillis. Et donc, dans le conte, c'est un peu ça que ça rejoint. C'est, voilà, ils sont tous invités, ils y arrivent tous ou aucun.
Alors, une fête comme Noël, ça invite aussi à faire des choix. On a parlé de cadeaux, il y a peut-être encore d'autres choses. Pour vous, quels sont ces choix?
D'abord, pour moi, c'est le choix de réfléchir à ce que Noël signifie. Moi, je ne veux franchement, je ne vous cache pas que moi, j'ai beaucoup désinvesti la fête de Noël, qui n'a plus beaucoup de sens pour moi. La fête de Noël, d'abord, c'est un truc très consumériste et écœurant. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai vraiment voulu tourner le dos. Et sur le plan religieux, moi, franchement, ben voilà, je vous avoue que le discours un peu convenu qu'on entend de la part de l'institution catholique, dans le meilleur des cas, je trouve ça souvent creux, c'est de l'ordre de la... De l'incantation, moi ça me touche pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui me parle plus. Moi je vais plus à la messe de Noël qui est devenue quelque chose pour moi d'un peu, devenu un peu inintéressant. J'ai l'impression que ce n'est plus habité et donc c'est devenu quelque chose de familial. Et j'ai vraiment envie, moi j'aimerais réinvestir, j'envie un peu les musulmans, la manière dont ils vivent, l'Aïd el-Kébir par exemple, qui restait une fête où la générosité, la fraternité, l'accueil continuent d'avoir du sens. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que nous avons perdu. Alors pour moi le choix, c'est le choix de réfléchir à Noël et de le réinvestir, de le réenchanter. Je pense que le travail que vous faites, il y participe, il remet du sens, de la substance et de la valeur dans cette fête qui me semble en avoir malheureusement beaucoup perdu.
C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, Paul.
Oui, et donc... puis ça fait penser au conte de l'année passée, Xavier, Vivante Crèche, qui racontait vraiment une famille qui essaie de vivre Noël un peu autrement.
Oui. Tout à fait. Alors dans les outils qu'on propose, on a parlé de l'épice pour un avant solidaire, de la démarche cadeau, du conte qui est accompagné, je vais le signaler, de pistes d'animation qui permettent de le travailler avec les enfants de la catéchèse ou de l'école. Mais tout ça est relié et il y a aussi une boule de Noël, Paul, qui peut avoir plusieurs utilisations.
Oui, alors peut-être que nos auditeurs se souviennent de la campagne boule versons les exclusions il y a quelques années. On a repris ces chouettes petites boules, vous savez, c'est des boules qu'on peut couper en deux, qu'on peut remettre ensemble, elles sont transparentes. Et cette boule, on les vend en profit des associations soutenues par Vivre Ensemble cette année-ci. Hein. Vous savez que c'est 88 associations de terrain en Wallonie et en Bruxelles que Vivre Ensemble veut soutenir. En achetant ces boules, vous pouvez non seulement faire ce geste-là de soutien, c'est un cadeau pour ces associations, mais ces boules elles-mêmes, elles peuvent être utilisées dans des animations. Ces boules, par exemple, dans la démarche cadeau, on peut faire des chèques cadeaux dans ces boules. On peut les décorer, on peut les remplir de chocolat. Là, on peut, si vous faites une table d'invitation avec votre famille ou bien plus, vous pouvez mettre les noms des invités dans ces boules. Voilà, je pense que ça se prête à mille utilisations possibles dans le cadre de Noël, autour, sur le sapin ou autour du sapin.
Très bien, merci beaucoup. Voilà, alors pour en savoir plus pour tout ça, on vous invite bien sûr à consulter notre site internet vivre-ensemble.be. Il y a aussi la liste des projets, mais les projets qu'on soutient, on va y revenir dans de prochaines émissions. Je voudrais vraiment remercier Xavier d'être venu jusqu'à nous pour parler de son compte et prêt pour une cinquième aventure alors peut-être ?
Avec plaisir.
Avec plaisir, c'est réciproque alors. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci à Paul et à très bientôt.
Fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres, fils de César, fils de rien, tous les enfants sont comme le tien, le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs, fils de César, ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après, longtemps après, fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Sous voûte d'or, sous toit de chaume, tous les enfants ont un royaume. Un coin de vague, une fleur qui tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de ton fils, nos fils étrangers, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Ils sont bergers, ils sont rois mages, ils ont des nuages pour mieux voler. Fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de bourgeois ou fils d'apôtres, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de